Kiosque Magazine.
Alors, bon lundi matin à tous et à toutes. Oui. Bon lundi matin à Franceline Nieuviard.
Bonjour, Serge Hamelin.
Oui, merci beaucoup. Et bonjour aussi à Mathieu, qui est en, de l'autre côté, comme ça, qui est notre support technique.
Et bonjour à tous les auditeurs.
Oui, surtout. Alors, on commence ce matin à vous parler de différents sujets que l'on a extraits de certains magazines. Vous, c'est dans quel magazine?
Alors moi, aujourd'hui, je vais être exclusivement l'actualité de août 2015. En effet, je vais vous lire les articles concernant leur dossier qui est « Manger sans angoisser ». Par Valérie Borde. Et donc, dans la première partie, ce sera « Faut-il croire à tout ce qui est oméga-3, anti-cancer, etc. Alimentation anti-cancer ?» Et dans la deuxième partie, je vous dirai « Comment survivre au bombardement d'informations sur la nutrition et manger santé sans devenir fou ?» Il y aura donc 17 conseils que je vous lirai.
Bon, c'est le temps des légumes, de toute façon,
absolument.
Il n'y aura pas de problème.
Légumes et fruits, et vous, il n'y a aucun problème.
Un bon bouilli avec ça de temps en temps, c'est bon. Et puis voilà, moi je vais vous parler, il y a les transgéniques, il y a les gras trans, mais moi je vais vous parler des transgenres. On n'en parle pas beaucoup de ça, et c'est intéressant de savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, je vais vous parler de recherche médicale. Et puis après ça, je vais vous parler des gels. Les gels énergétiques pour mieux rebondir. Ah, c'est spécial, ça. Alors, qui commence?
C'est vous, Serge.
C'est moi qui commence. Je suis content. Je casse la glace et aujourd'hui, il n'y en a pas de glace parce qu'il fait très chaud. On annonce des 150 000 degrés Celsius. Alors, quand la loi discrimine, cocher F pour féminin et M pour masculin, carte d'assurance maladie, passeport, permis de conduire, la référence au genre associée au sexe biologique discrimine les personnes trans au quotidien. C'est écrit par Nafi Alibert et Alexandra Gelil. Alors, pour Akiko Asano, présidente de l'organisme Enfants Transgenre Canada, la bataille menée aujourd'hui par les personnes transgenres est semblable à celle menée il y a quelques années par les personnes homosexuelles. Si les droits des personnes LGB ont progressé, et qu'en est-il de la reconnaissance des Québécois trans? C'est une bonne question parce qu'on n'est vraiment pas habitué d'entendre parler de ce sujet et de ces personnes en particulier. Jusqu'en 2013, le fait d'être trans était toujours considéré comme une maladie mentale dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, comme l'était l'homosexualité avant 1973.
Oui, c'est pas
c'était
si vieux.
Pierre-Éliott Trudeau dans ce temps-là, je pense. Ouais. Alors, les personnes transgenres sont des personnes comme les autres. Il faut vraiment travailler sur une ouverture d'esprit quant à la diversité du genre dans notre société, annonce Mme Asano. Des chiffres et des lettres. Au Québec, une personne peut changer la mention de sexe sur ses papiers à condition qu'elle ait subi une modification chirurgicale de ses organes génitaux. Un passage sous le bistouri menant à une stérilisation parfois non consentie que certaines personnes trans ne jugent pas nécessaire. Adopté en décembre 2013, le projet de loi 35 pourrait toutefois changer la donne en permettant aux personnes trans d'obtenir un changement du M ou du F à l'état civil sans avoir à effectuer d'opération. Mais les règlements de l'application de cette loi proposée par le gouvernement à Québec laissent les défenseurs des droits des personnes trans perplexes. Selon les propositions, les demandeurs devront avoir vécu au moins 2 ans sous l'apparence du sexe demandé. Mais que signifie vivre sous l'apparence d'un homme ou d'une femme? A demandé Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition des familles LGBT aux députés québécois. Oh, bonne question. Comme d'autres représentants de la communauté trans invités à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, Mme Greenbaum a réitéré que certains aspects des règlements proposés ne sont pas dans l'intérêt des personnes transgenres. Jean-Sébastien Sauvé, est un spécialiste des droits des personnes trans. Il dénonce, quant à lui, la discrimination liée à l'obligation de fournir une lettre d'un professionnel de la santé confirmant l'identité de genre voulue. Mais comment fait-on pour les lettres des proches des personnes qui ont perdu tout leur entourage pendant leur transition ou pour les lettres du médecin si la personne n'est pas capable de se payer une consultation, s'interroge-t-il? Raillerie, regard de travers, problème d'accès à la justice ou aux services de santé, quand l'expression de genre ne reflète pas le M ou le F inscrit sur les documents officiels, le quotidien des personnes trans peut vite tourner au calvaire. Depuis les années 1980, seules deux décisions ont été rendues au Québec concernant la discrimination vécue par les personnes transgenres. Or, tout le monde se doute que ce n'est pas représentatif de la réalité, commente M. Sauvé. Et ce dernier souligne l'importance d'un changement législatif pour que les personnes trans prises en otage par une identité civile qui ne convient pas puissent avoir la reconnaissance sociale à laquelle ils ont droit. Bon. Ensuite, il y a les stéréotypes genrés. Les hommes portent des jeans, les femmes portent des jupes, sauf en Écosse, je pense. La société est encore organisée de façon binaire, masculin-féminin, et l'expression de notre genre doit être en accord avec les attentes de la société. Point. Alors, toutes les dimensions légales et civiles sont organisées autour de cette compréhension binaire, là, voilà. Et si cet indicateur était devenu totalement caduque, le stéréotype du genre, c'est partir du postulat que certains agissements sont réservés uniquement aux filles et d'autres aux garçons. Les dissertations sont des affaires plates de filles. Les activités dynamiques plaisent aux gars. Des exemples comme ça, Gabrielle Richard en a à la pelle. La sociologue à l'Université de Montréal a observé que les discours reliés au genre continuaient d'être diffusés dans les écoles secondaires. Là où ça fait mal. Madame Richard rappelle qu'au secondaire, le jugement et l'opinion des autres sont primordiaux dans la construction identitaire du jeune. Et quand ils sont victimes d'homophobie, le plus souvent on pénalise les jeunes qui ont une expression de genre jugée non conforme aux normes sociales, affirme Gabrielle Richard. Et pour la psychologue Françoise Susset, le déclic poussant un enfant à exprimer davantage son identité de genre vient de la souffrance qu'il peut ressentir s'il ne le fait pas. Elle parle même d'une réduction absurde de l'identité d'un individu assimilé uniquement aux organes génitaux. Alors, quel conseil donnerais-tu aux parents qui apprennent que leurs enfants sont trans? Oh, et là, il y a un petit rire. La première chose est de briser l'isolement et de rester calme. Je crée beaucoup de réseaux où je rencontre à la fois des parents et des jeunes pour éviter qu'ils ne se sentent seuls. Les parents vont souvent vivre beaucoup de pression sociale. En réponse à cela, ils vont interdire aux enfants d'explorer leur identité pour qu'ils correspondent aux normes de genre. Ensuite, il est important que les parents créent un espace sécuritaire pour l'enfant pour qu'il construise ce que signifie pour lui être un garçon ou une fille. Alors voilà, nous sommes maintenant un peu plus connaissants sur le genre, c'est le cas de le dire, sur le transgenre. Merci.
Alors, manger sans angoisser. Chacun ses vices. Moi, c'est le chocolat noir de préférence. Mais ces jours-ci, il me donne des maux de tête à cause d'un mal pernicieux qui nous menace tous, la surabondance de conseils sur l'alimentation. Gavés d'informations, nous ne savons plus quoi manger. Le chocolat noir est à la mode. Dans mon épicerie, on en trouve une trentaine de variétés. Riche en magnésium, fer, phosphore et antioxydants, il serait bon pour le cœur, efficace contre le cancer, l'hypertension, l'anémie, le déclin cognitif. Un vrai produit miracle, au dire de certains. Sauf que, même avec 85% de cacao, il renferme une bonne dose de gras saturé et de sucre. Du poison, donc, selon d'autres. L'étiquette nutritionnelle ne m'éclaire qu'à moitié. 3 carrés donnent 170 calories 4 grammes de sucre et comble 40% des besoins quotidiens en gras saturé. Comme je suis assez active et en bonne santé, combien pourrais-je m'en permettre en collation ? D'ailleurs, ces chiffres sont-ils exacts ? On peut se le demander quand on sait que les fabricants ont droit à une marge de 20% d'erreur et que les contrôles sont rares. J'ai aussi appris que pour rendre le chocolat noir moins amer, la plupart lui font subir un traitement qui élimine les précieux antioxydants. Je ferais peut-être mieux de me rabattre sur une pomme, mais bio ou pas ? C'est la faute de la cacophonie nutritionnelle, dit le sociologue et anthropologue français Claude Fischler, qui a baptisé le phénomène dès 1993. Selon ce spécialiste des comportements alimentaires, les discours omniprésents sur ce qu'il faudrait manger ou pas est un choix de produits toujours plus vaste, ont conduit à une véritable crise dans la relation de l'humain avec son alimentation. La coupe est pleine. En perdant nos repères, nous avons ouvert grand la porte à des rapports malsains avec le contenu de nos assiettes, de l'orthorexie, qui est un trouble alimentaire résultant d'une préoccupation excessive à l'égard de la nourriture, à l'incapacité de maintenir un poids santé en passant par une croyance maladive en un nombre croissant de remèdes miracles. Nous espérons aussi, le plus souvent en vain, que manger sans gluten ou suivre un régime détox nous aidera à faire la paix avec le pèse-personne ou nos états d'âme. Pour calmer mon appétit de savoir à propos du chocolat, j'ai cherché dans la littérature scientifique. Au cours des 10 dernières années seulement, près de 3000 études ont été publiées sur les effets du chocolat sur la santé. Plus de 80 000 sur la nutrition. On a tellement creusé pour comprendre comment les aliments agissent qu'on se retrouve au fond du trou, dit en riant Simone Lemieux, professeure à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels à l'Université Laval. C'est une vraie patate chaude pour les chercheurs qui ont le sentiment de ne plus aider personne en ce moment, croit ce spécialiste des comportements alimentaires et de l'obésité qui suit le domaine depuis 25 ans. L'intention des scientifiques était bonne. On sait aujourd'hui, grâce à leurs recherches, que mal manger ou trop manger est un des principaux facteurs de risque pour entraîner les maladies chroniques les plus courantes et les plus meurtrières, comme l'obésité, le diabète, des troubles cardiovasculaires ou des cancers. Leur message est passé. Selon un sondage du Conseil québécois sur le poids et la santé réalisé l'an dernier, 88% des adultes québécois se préoccupent de leurs habitudes alimentaires. Près de la moitié voudrait mieux manger et 57% espèrent maigrir dans les 6 prochains mois. Mais comme cela ne se fait pas en criant fourchette, ce besoin est de créer un énorme marché pour le conseil nutritionnel. La nutrition est devenue une nouvelle religion dans laquelle vous êtes une bonne personne seulement si vous vous préoccupez de ce que vous mangez. Les prophètes se sont aussi multipliés comme des petits pains. L'alimentation hypotoxique et celle qu'on dit anticancéreuse font un malheur dans les librairies. Mais qui sont les auteurs de ces quelques 4250 livres traitant de nutrition qui figurent dans le catalogue de la Bibliothèque nationale du Québec ? Beaucoup de gens ont testé un régime sur eux-mêmes, se sont convaincus que ça pouvait marcher en trouvant quelques études qui vont dans leur sens, et ils font de l'argent avec ça, dénonce Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice du site de référence Extenso, un des rares chiens de garde indépendants en matière de nutrition, mis sur pied par les chercheurs de l'Université de Montréal. Chaque mois, de nombreuses visites sur les 150 000 que reçoit ce site Internet, une référence dans la francophonie, viennent de gens persuadés d'avoir trouvé Dieu ou le diable dans leur assiette. Même parmi les chercheurs, beaucoup de gens très dogmatiques ajoutent à la confusion avec des recommandations très précises et rigides, ajoute Simone Lemieux. Faut-il suivre le régime méditerranéen plutôt que les guides alimentaires ? Le régime anticancéreux ou l'assiette de Harvard ? Au final, je crois que ça ne change pas grand-chose. Véronique Provencher, également professeure de nutrition à l'Université Laval, étudie comment on interprète toutes ces recommandations. Comme on est submergé d'informations, mais qu'on n'a pas plus de temps pour faire ses choix, on simplifie. Inconsciemment, on classe tous les aliments dans deux catégories, bons ou mauvais pour la santé. Même si cela n'a parfois rien à voir avec la réalité. Puis on essaye d'éliminer le mauvais et on abuse du bon. Le simple fait de croire qu'un produit est bon pour notre santé nous pousse en effet à le consommer davantage, ont démontré de très nombreuses études sur les effets du halo santé. On observe que même les gens qui font très attention à ce qu'ils mangent n'ont souvent pas une meilleure alimentation, que ceux qui se posent peu de questions, affirme Véronique Provencher. Aujourd'hui, seuls les fruits et les légumes, à la base de tous les modèles de régime santé, font vraiment consensus. Mangez-en en quantité, en y ajoutant au besoin un peu de gras, de sucre ou de sel, et variez les couleurs, recommande Simone Lemieux. Je sais que c'est plate comme recommandation, mais c'est ce qu'il y a de plus sensé. Et pour le reste, méfiez-vous des idées à la mode et des produits ultra transformés, mangez de tout avec modération, privilégiez les aliments frais et écoutez vos signaux de faim et de satiété, résume Marie-Josée Leblanc. Qui a dit que manger santé devait être compliqué ? Voilà, c'est ce qu'écrit Valérie Borde dans le journal L'Actualité de août 2015.
Navigateur, mains ouvertes sur les songes. Tu sais la carte de mon cœur, les jeux qui te prolongent. Et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour. Navigateur, et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour. Navigateur, le pied secret, ce qu'il nous faut écouter. L'oreille comme un coquillage, dans quel pays tu sembles. Amour et moi, dans l'octave du don. L'oreille comme un coquillage, dans quel pays tu sembles. Mon bel amour, navigateur, mon bel amour, navigateur sur la jetée de la nuit, je saurai ma présente d'un vœu à l'azur ton mystère, déchiré d'un espace rouge gorge.
Alors, nous sommes dans la revue Protégez-vous. Je suis tombé sur un article qui a été écrit par Catherine Crépeau. Dans le domaine de la santé, recherche médicale, le chirurgien. On ne parle pas beaucoup de ça, on ne parle pas souvent de ce sujet. Le chirurgien qui s'apprête à vous retirer une tumeur vous demande de donner vos cellules cancéreuses à des fins de recherche. Si vous acceptez à quoi consentez-vous vraiment?
Ah, oui. Intéressant comme question.
Alors, au Québec, tous les déchets anatomiques et tissus biologiques doivent être détruits après avoir été retirés lors d'une intervention chirurgicale. C'est le règlement sur les déchets biomédicaux de la loi sur la qualité de l'environnement qui l'exige. Alors, on ne met pas ça dans le bac à recyclage. Or, vos cellules cancéreuses, tissus adipeux, votre urine ou votre sang sont de véritables petits trésors pour les chercheurs. Les analyser ou en extraire l'ADN peut aider à comprendre les bases génétiques d'une maladie ou encore à développer des traitements ou des outils diagnostiques. Il n'est donc pas rare que des médecins invitent leurs patients à donner des tissus, des cellules ou du sang à une biobanque liée à un hôpital ou à un organisme public, comme la banque de l'Institut de cardiologie de Montréal, ICM, ou celle de Génome Québec et du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Chicoutimi. Votre don pourra être ensuite étudié par des chercheurs d'ici et d'ailleurs dans le monde, dans des laboratoires universitaires ou privés, en fonction des biobanques. Votre consentement est nécessaire avant que de petits bouts de votre corps n'aboutissent sur la table de travail d'une équipe de scientifiques. Les patients ne sont cependant pas toujours assez conscients des enjeux pour prendre une décision éclairée, dénonce la sociologue Céline Lafontaine, auteure de l'essai « Le corps marché ». Son opinion controversée n'a rien de rassurant. Les échantillons que vous fournissez gratuitement pour le bien de la collectivité pourraient faciliter la privatisation des soins de santé. Les biobanques sont financées par l'argent public, mais les échantillons biologiques qu'elles entreposent et les recherches menées par des universitaires peuvent être utilisées par des compagnies pharmaceutiques pour développer des médicaments que seuls les plus riches pourront se payer, avance-t-elle. Et d'autres experts jugent cette vision réductrice et théorique. Selon eux, la participation des donneurs et le financement public sont nécessaires au développement de la recherche et de nouveaux traitements. Et vous, comme patient, que déciderez-vous? Protégez-vous, c'est intéressé au débat, afin de vous aider à déterminer si vous êtes d'accord ou pas pour faire un don. Que donnerez-vous? Les biobanques recueille le plus souvent des échantillons de sang pour en isoler divers éléments comme du plasma, des globules rouges et blancs ou de l'ADN. Et certains collectent aussi de l'urine, de la salive, du sang de cordon ombilical et divers tissus. La biobanque procure, un organisme sans but lucratif, récupère par exemple des morceaux de la prostate des patients qui se font enlever cette glande. Et toutes les biobanques recueillent aussi des renseignements concernant l'âge, l'état de santé, le milieu et les habitudes de vie des participants. À qui donnerez-vous maintenant? Il est difficile de dénombrer les biobanques actives puisque tout congélateur de laboratoire peut être considéré comme tel dès qu'il contient des échantillons biologiques d'origine humaine, explique Daniel Tessier, vice-président des Centres technologiques Génome Québec, une organisation non gouvernementale qui soutient et finance le développement de la génomique au Québec. Il y aurait dans le monde au moins 160 biobanques qui conservent des échantillons provenant de personnes en santé, selon le projet public des populations en génomique et société de l'Université McGill. Carthagène, du Centre hospitalier universitaire CHU Sainte-Justine, est la seule au Québec. Et plus de 20 000 Québécois en santé lui ont déjà confié des échantillons de sang et d'urine, ainsi que des données personnelles. La seconde phase, qui est en cours, vise à doubler ce nombre. Et le nombre total de biobanques consacrées à des maladies est inconnu. Les experts interrogés estiment toutefois que le Québec en compterait moins d'une dizaine. Et à quoi serviront vos dons? Eh bien, chaque biobanque a ses propres règles d'accès. Procure, c'est le nom de la biobanque, par exemple, ne transige qu'avec des projets de recherche liés au cancer de la prostate. L'ICM, quant à lui, entrepose les dons de sang de 20 000 patients atteints de maladies cardiovasculaires et ces échantillons sont réservés aux projets de recherche auxquels participent ces chercheurs. Le hic, c'est qu'il est souvent impossible de savoir exactement à quoi servira votre échantillon. Et avec les biobanques, vous ne pouvez pas choisir de participer exclusivement à la recherche publique ou savoir à quel projet précis servira votre don. Alors, avant de vous engager, c'est important de savoir certaines choses. Et c'est indispensable pour qu'une biobanque puisse conserver votre matériel biologique. Donc, on doit avoir votre consentement selon la notion encadrée par le Code civil du Québec. Il n'y a donc aucun risque que la tumeur cancéreuse que le médecin vous a retirée s'y retrouve à votre insu. Alors, c'est important, il y a le formulaire de consentement, on va terminer avec ça, qui vous est remis, devrait détailler, entre autres, le type d'échantillon que vous fournirez, où et comment ils seront conservés, qui pourra les utiliser et pour quel type de recherche, une maladie précise ou non, le processus d'acceptation des projets de recherche qui peuvent utiliser les échantillons, les règles de confidentialité et le processus de retrait. Alors voilà, on en sait plus qu'on en savait.
Oui, absolument, oui.
Alors, à bon d'honneur, merci beaucoup.
Alors, quelques brèves. Morphine maison. Pourra-t-on un jour fabriquer ces opiacés à la maison ? Des opiacés sont les antidouleurs. Des scientifiques de l'Université Concordia à Montréal et de l'Université de Californie à Berkeley ont modifié génétiquement une levure pour qu'elle puisse convertir du sucre en morphine. Cette percée emballe certains scientifiques qui voient une façon de produire des antidouleurs sans pavot dont sont dérivés les opiacés. Certains craignent un détournement de la recette à des fins récréatives et illégales.
C'est bien ça.
Oui.
Et puis, est-ce qu'on a le temps pour quelque chose d'autre? Oui. On va parler à propos de la créativité. Pablo Picasso, vous savez ce qu'il a écrit? Non, vous ne savez pas, je vais vous le dire. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant.
Ouais.
Et John F. Kennedy, il a écrit « L'art est le fruit de la créativité des gens libres ». Et puis, Michel-Ange, on termine avec Michel-Ange. Le plus grand danger qui nous guette n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. Voilà.
Alors, on se retrouve après la pause.
Ah oui.
Eh oui.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, retour de la pause, je continue la suite du dossier de l'actualité, le texte « Manger sans angoisser » écrit par Valérie Borde. Et là, je vais vous lire « Comment survivre au bombardement d'informations sur la nutrition et manger santé sans devenir fou ?» C'est 17 conseils pour déjouer les pièges et c'est fait sous forme d'abécédaire. Alors, je commence par le « A ». « A » comme « activité physique ». Bien des sportifs mangent trop ou mal, pensant à tort que bouger compensera leur mauvaise alimentation. Ni les barres énergétiques, ni les boissons qui leur sont destinées ne sont nécessaires. Simplement, un repas riche en glucides, de riz ou pâtes, de 3 à 4 heures avant l'effort, pas de sucre immédiatement avant, et beaucoup d'eau avant et après, devrait suffire à la plupart des gens qui s'entraînent. Les conseils des athlètes sont à fuir. En 2013, une étude américaine a montré que parmi les produits recommandés par les 100 sportifs les plus populaires aux États-Unis, 80% n'avaient aucune valeur nutritive. B comme bio. Manger bio est meilleur pour l'environnement, mais pas forcément pour la santé. La dernière méta-analyse qui analyse toutes les études publiées sur un thème à ce sujet a conclu que les fruits et les légumes bio contenaient légèrement plus de vitamines et évidemment moins de pesticides. Mais dans quelle mesure cela a-t-il vraiment une incidence sur la santé des consommateurs ? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est comme calories. On se trompe souvent sur la valeur calorique des aliments. La banane, par exemple, est l'ennemi juré des gens qui veulent perdre du poids. Elle renferme cependant un peu moins de calories qu'un yogourt sans sucre, ni lactose, ni matière grasse, deux fois moins qu'un café mocha allégé sans crème fouettée de Starbucks et cinq fois moins qu'un muffin avoine sans raisin faible en gras de Vanout. En outre, toutes les calories ne se valent pas car on retire bien d'autres choses des aliments que de la simple énergie. La preuve, la farine blanche et celle de blé entier contiennent tout autant de calories. Pourtant, la deuxième est a priori meilleure pour la santé que la première. D comme détox. La détoxification est à la mode, mais elle n'a ni fondement scientifique ni bienfait et les cures peuvent être dangereuses. Dans son livre Ginette Paltrow a-t-elle tout faux, Tommy Caulfield, chercheur sur les politiques de santé à l'Université de l'Alberta, déconstruit les recommandations des célébrités et les passe au crible de la science. Pour écrire ce livre aussi drôle qu'instructif, bientôt disponible en français, il a notamment suivi et évalué le régime détox de l'actrice américaine qui s'est improvisée gourou du bien-être. Son jugement est sans appel. Aucune base scientifique, aucune efficacité et un risque bien réel d'engraisser par la suite, comme avec tous les régimes. Seul son portefeuille s'est allégé de 425 $ pour le kit comprenant suppléments et manuels de détox. E comme étude. Parmi les milliers d'études sur la nutrition, toutes n'ont pas la même valeur. Certaines associent certainement simplement un régime, un aliment ou un nutriment à une mesure indirecte du risque de maladie, comme l'indice de masse corporelle. L'échantillon n'est que de quelques dizaines de personnes auxquelles on a demandé ce qu'elles avaient mangé dans le dernier mois, sans les comparer à un groupe témoin, ni établir de lien de cause à effet. Les études réellement significatives sont rares, car réunir une grande cohorte de cobayes, les suivre étroitement et longuement et vérifier les innombrables paramètres qui peuvent fausser les résultats coûte très cher. Les méta-analyses fournissent les résultats les plus fiables car elles compilent un grand nombre d'études en analysant les forces et les faiblesses de chacune. Des médias font feu de tout bois, la nutrition ça fait vendre et rapportent rarement les nuances. On lit tout et son contraire, ce qui donne l'impression que la recherche ne vaut rien et n'aide pas à se démêler, croit Marie-Josée Leblanc du site Extenso, qui propose aux internautes une échelle de crédibilité des études bien utile pour se faire une idée de la science. F. Fruits et légumes. Le chercheur américain Brian Van Zijck, qui a élaboré le guide alimentaire des États-Unis en 2009, croit qu'on devrait simplifier le message. La moitié de l'assiette en fruits et légumes et tout ce que vous voulez dans l'autre moitié. Si la population était capable de suivre ça, on ferait déjà un pas énorme dans la bonne direction, dit-il. Et guide alimentaire pour G. Le guide alimentaire canadien est brisé selon Yoni Fridoff, professeur de médecine familiale à l'Université d'Ottawa et spécialiste de la perte de poids. À la sortie de la version actuelle de cette Bible de la nutrition en 2007, il l'avait déjà qualifiée d'obésogène, notamment parce que le guide ne différenciait pas les fruits et les jus de fruits. Comme bien d'autres chercheurs, Fridoff dénonce aussi la mainmise de l'industrie alimentaire sur le guide. La recommandation sur les produits laitiers notamment n'est pas basée sur la science. D'autres spécialistes, comme Sylvain Charlebois, professeur de politiques alimentaires à l'Université de Guelph, critiquent également la lenteur des mises à jour. Aux États-Unis, le guide alimentaire est revu tous les 5 ans. Au Canada, où l'on n'a pas prévu de mise à jour régulière, le guide est en vigueur depuis 8 ans déjà. Bien des experts applaudissent en revanche le nouveau guide alimentaire du Brésil. Au lieu des groupes alimentaires et des portions, les autorités brésiliennes recommandent de consommer en priorité des aliments peu ou pas transformés, cuisinés à la maison, avec peu de sel, de gras et de sucre, de manger de bonne compagnie et à l'heure des repas, et de se méfier de la publicité. Mais l'industrie alimentaire surfe déjà sur cette nouvelle vague. Ensemble, c'est encore meilleur, dit Coca-Cola dans sa dernière pub, axée sur le bonheur de manger en famille. Voilà donc la première partie de ces 17 conseils. Je vous retrouve après cette chanson.
Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui fument les petits bouts, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais y a des jours où je suis complexé. Je me trouve pas bien sexy. Quand je me regarde de profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond d'une armoire. Oh. Ouh, 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 ouh.
qui regardent la télé, moi je mange. Il y en a qui restent toujours couchés, moi je mange. Il y en a qui courent les bingos, moi je mange. Il y en a qui rêvent au pays chaud, moi je mange.
Quand je suis tanné, moi je mange. Comme un bébé, moi je mange. Quand je suis heureuse, moi je mange. Quand je suis nerveuse, moi je mange. Mais il y a des jours où je suis fatigué. Je peux plus monter l'escalier. Je peux plus aller travailler. Je vois même plus le bout de mes souliers.
Ah.
Je mange. Y'en a qui placent tout le temps, moi je mange. Y'en a qui font l'artisanat, moi je mange. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi je mange.
J'ouvre mon radio, je me fais un bon snack. J'écoute Ginette Renault, et je mange des Cracker Jack.
Mais y'a des jours où j'en ai assez.
Je voudrais m'arrêter de manger.
Mais si je me rends 336,
le monde y verra peut-être que j'existe.
Moi je mange.
Y'en a qui font de la bicyclette, moi je mange.
Y'en a qui courent les médecins, moi je mange.
Y'en a d'autres qui font jamais rien, moi je mange.
Moi j'allume mon fourneau, puis je me fais une belle tarte.
Je m'en coupe un beau morceau,
puis j'appelle ma tante Matt.
Puis toutes les deux on se met à manger.
Manger comme des défoncés.
Y'a plus d'autres choses qui nous intéressent
depuis qu'on mesure 90 autour des fesses.
Alors, manger sans angoisser, ça, c'est bon pour la santé. Et je continue mon abécédaire avec la lettre I. I comme intuition. Plutôt que d'écouter les autres vous dire de quoi manger, fiez-vous à votre intuition et faites-vous plaisir, conseille la nutritionniste Karine Gravel. Ses études, comme celles d'autres chercheurs, ont montré que réapprendre à manger ce que l'on aime vraiment plutôt que ce que l'on croit bon pour nous aide à réduire les quantités consommées. Les gens qui savent bien reconnaître quand ils ont faim ou n'ont plus faim, qui dégustent leur nourriture et savent en décrire les qualités gastronomiques, maintiennent beaucoup plus facilement un poids santé que les autres, explique-t-elle. L. Lactose, gluten, sucre et autres poisons, entre guillemets. Sauf en cas d'allergie ou d'intolérance clairement établie, aucun aliment ne devrait être banni. Méfiez-vous de tous ces documentaires qui vous mettent en garde contre des poisons. Diaboliser des aliments crée un rapport malsain avec la nourriture qu'on compense par d'autres excès. Il faut juste doser. Oui, un régime sain peut inclure des chips ou du gâteau, mais pas tous les jours, affirme la nutritionniste Karine Gravel. Des études ont montré que les adeptes de régimes d'éviction ne cherchent pas tant à améliorer leur santé qu'à maigrir pour répondre à des canons de beauté. M. Mythe. Les idées reçues sont nombreuses dans nos assiettes. Non, le pamplemousse ne fait pas fondre la graisse. Le soya ne fait pas baisser le niveau de testostérone. Les carottes n'améliorent pas la vue. Les pains multigrains ne sont pas plus nutritifs. Et non, manger santé ne coûte pas plus cher. D'autres mythes à voir dans extenso.org, sur le site de extenso.org. N. Nutritionniste. Les 3000 membres de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec sont les seuls professionnels formés en nutrition à l'Université de Montréal et à l'Université Laval qui doivent répondre à des normes et sont tenus de suivre des formations continues. Ils doivent afficher leur permis de pratique et on peut porter plainte contre eux en cas de problème, précise Paul Bernier, présidente de l'Ordre, qui dénonce notamment les abus des naturopathes et mentors personnels. Les nutritionnistes et diététistes, ce sont deux mots équivalents, ne sont toutefois pas épargnés par le marketing de l'industrie. Par exemple, le dernier congrès annuel des diététistes du Canada était commandité par une foule d'entreprises comme Centrum, Monsanto, Nestlé, Subway. P comme protéines. Après avoir été attaqué sur le contenu en lipides et en glucides de ces produits, l'industrie alimentaire fait la promotion des protéines, dernier groupe de nutriments d'importance. On en vante beaucoup les vertus ces jours-ci. En moyenne, on a besoin de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, jusqu'à 1,8 g pour une personne très sportive. La plupart des Canadiens mangent largement assez de protéines. R comme ruse. Pour mieux manger, organisez votre cuisine, conseille le spécialiste des comportements alimentaires, Brian Van Zyck. L'accessibilité des aliments joue un rôle déterminant dans leur consommation. Il conseille entre autres de mettre les biscuits au fond des placards dans des boîtes fermées, les fruits et les légumes sur le comptoir et dans les rayons les plus accessibles du frigo, et d'acheter des assiettes et des verres plus petits. Le chercheur a aussi évalué que dans les familles où l'on met les plats à table, on mange 19% plus que lorsque ceux-ci restent sur le comptoir ou la cuisinière. Autre ruse, faire l'épicerie le ventre plein en commençant par là où se trouvent les produits frais. S comme suppléments alimentaires et vitamines. Inutiles, voire dangereux, sauf dans de rares exceptions médicalement justifiées. T, taxes et politiques publiques. Les campagnes d'éducation et les guides alimentaires n'ont aucune chance de faire le poids devant la cacophonie nutritionnelle et le marketing d'une industrie qui a très peu de comptes à rendre en ce qui concerne la nutrition. Taxer la malbouffe, dont les boissons sucrées, serait beaucoup plus efficace selon nombre d'organisations internationales de médecins, chercheurs et spécialistes en santé publique. Au Québec, l'idée soutenue notamment par la Coalition québécoise sur la problématique du poids, 300 organisations soucieuses de santé publique, est dans l'air depuis longtemps, mais toujours pas appliquée. U, ultra transformé, riche en sucre et en gras, fabriqué à l'aide de diverses substances plutôt que d'aliments entiers, conçu pour être irrésistible et vendu dans des emballages qui en facilitent le marketing, les produits qu'on dit ultra transformés sont les pires ennemis d'une saine alimentation, estime Jean-Claude Moubarak. Cet anthropologue montréalais, chercheur en nutrition, a participé à la conception du guide alimentaire brésilien qui déconseille fortement ces aliments. On se fie à l'intelligence de la nature, c'est en revenant à des aliments simples, utilisés depuis longtemps, que l'être humain va tirer le meilleur bénéfice de ce qu'il mange, explique-t-il. À éviter, la liste d'ingrédients interminables ou qui contiennent des mots ne désignant pas les ingrédients simples et bien connus. Oui au fromage fait de lait et de culture bactérienne, non à celui qui contient en outre des substances laitières modifiées, de la gomme de xanthane ou de la DHA. Enfin, végétarisme. Pour V, les végétariens s'exposent aux mêmes risques que les omnivores quand ils mangent outre mesure, se préoccupent trop de leur nourriture ou consomment beaucoup de produits ultra transformés. Voilà, c'était donc le grand dossier « Manger sans angoisser » écrit par Valérie Borde dans la revue L'Actualité de août 2015.
Mieux rebondir. Ah, quel sujet! On va parler santé encore.
Ce matin, on est
dans la santé.
C'est vraiment le thème de la matinée.
En santé, d'être en santé. Hein? Bon, alors, Catherine Crépeau, elle parle de gels énergétiques. Alors, ça tombe bien aujourd'hui, il fait chaud. Un bon gel, ça ferait du bien. Ça n'a rien à voir. OK, alors, plus facile à traîner qu'une banane ou une boisson pour sportifs. Les gels et jujubes énergétiques sont appréciés des coureurs, mais sont-ils vraiment nécessaires?
Voilà la question. hein?
La réponse à cette question dépend de l'effort que vous mettez à l'entraînement. Voilà. Par exemple, si vous courez moins de 75 minutes, ce qui est mon cas, et que vous avez mangé une ou deux heures avant votre course, De l'eau vous suffira. Bon. Par contre, si vous vous entraînez plus longtemps, que vous déployez des efforts intenses par temps chaud et humide comme aujourd'hui, ou que vous n'avez pas mangé depuis au moins 3 heures avant le début de votre épreuve, votre corps aura besoin d'un coup de main pour fournir suffisamment d'énergie à vos muscles. Un sachet de gel à boire ou quelques jujubes pourraient vous aider à soutenir le rythme. Mais vous devez cependant prendre garde à bien les choisir. Et sur les 88 produits trouvés dans les boutiques de sport et de plein air que la revue Protégez-vous a visité, aucun ne répond aux critères de meilleur choix que nous nous étions fixés. Et 8 sont toutefois de bons choix et pourraient vous apporter une dose de sucre et de sodium utile pour terminer votre entraînement. Mais pas n'importe quel sucre. Les gels et jujubes énergétiques doivent fournir les glucides dont votre corps a besoin pour soutenir un effort prolongé sans s'épuiser. Alors, ce besoin se situe entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. Vous parlez de glucides
tantôt. Oui, c'est
tantôt,
ça, exactement. Oui.
Selon votre poids. Et les produits recommandés en contiennent au moins 20 grammes par portion. Attention toutefois. Tous les glucides ne s'équivalent pas lorsque vous faites du sport. Il faut en privilégier un mélange de plusieurs types pour favoriser leur absorption. On devrait viser au moins 10 grammes de maltodextrine. Hein, la connaissiez-vous, celle-là? Non, moi non plus. Assimilé rapidement, ce composé cause moins d'inconfort digestif que le fructose seul et surtout son goût est moins sucré. Au total, 75 des 88 produits évalués renferment 20 grammes de glucides ou plus, mais seulement 67 fournissent les 10 grammes de maltodextrine recommandés. Voyez-vous?
Mais oui, c'est...
Alors, pour que votre complexe. Corps absorbe la masse de sucre contenue dans les gels ou jujubes et la transforme en énergie, vous devez boire beaucoup d'eau, 100 ml par tranche de 6 à 8 grammes de glucides. Et votre sachet en contient 20 grammes, vous aurez besoin de 250 à 350 ml d'eau environ, soit une tasse ou un peu plus. Et comme votre corps absorbe entre 400 et 800 ml d'eau à l'heure, le mieux est de vous limiter à un gel ou une portion de jujube toutes les 30 à 45 minutes. Ah, ça en fait du calcul, ça, monsieur? Hein? C'est pas juste le physique, là, qui fait de l'exercice, il y a le mental aussi. Oh! Refaire le plein d'électrolytes. Ah bon. Électrolytes. Un produit énergétique doit également fournir des électrolytes comme le sodium et le potassium. Il stimule la soif, accélère l'absorption des glucides et de l'eau dans l'intestin, en plus de prévenir les crampes musculaires. Et dans les gels et les jujubes, le sodium permet de combler les pertes liées à la transpiration jusqu'à 1000 mg de sodium par litre de sueur et à l'effort. Et l'apport recommandé par l'American College of Sport Medicine est de 50 à 70 mg de sodium pour chaque 100 ml d'eau que vous buvez. Alors, si vous buvez entre 250 et 350 ml d'eau avec votre gel contenant 20 g de glucides, vous pourriez avoir besoin de 125 à 400 à 245 mg de sodium. Mais c'est compliqué. Pour nos bons choix, nous avons fixé à 125 mg la quantité minimale de sodium que ces produits devraient contenir. Seulement 8 produits, 7 gels et un sachet de jujube ont réussi à se qualifier. 9 produits de marque GU, Roctane et GU s'approchent toutefois du seuil minimum avec 117 mg, ce qui pourrait suffire pour les personnes qui ne transpirent pas beaucoup, qui courent moins de 2 heures ou qui ont un apport élevé en sodium dans leur alimentation. En suant, vous perdez aussi du potassium. Et pour combler ces pertes, il vous faut en ingérer entre 75 et 125 mg toutes les heures. Et comme les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer cette information sur l'étiquette nutritionnelle et que la donnée manquait pour 6 produits évalués, Nous n'avons pas fixé de critères à ce propos. Nos bons choix en contiennent un peu, soit entre 15 et 52 mg par portion. Vous pouvez aussi combler vos besoins en potassium par une alimentation riche en fruits, légumes, noix et produits laitiers.
Voilà, absolument. Un bon repas après.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, écoutez là. Les produits qui figurent dans le tableau sont classés par quantité décroissante de glucides qui, dans chacune des catégories, et en cas d'égalité, par quantité décroissante de sucre, de maltodextrine, de sodium, puis dans l'ordre alphabétique. N'oubliez pas que la caféine permet de retarder la fatigue. C'est pourquoi certains fabricants en ajoutent dans leurs gels et jujubes énergétiques. Et sur les 35 produits analysés qui en contiennent, seuls deux gels en renferment assez pour vous donner une poussée d'énergie en fin de course. Et c'est le gel vivifiant X4 à saveur de raisin, de pro-circuit endurance et le gel énergétique extra-caféine expresso, pas expresso, espresso, de Louis Garneau, LG1. Ils fournissent respectivement 170 et 91 mg. Et ces produits sont toutefois trop pauvres en sodium pour que nous les recommandions. Et attention, attention, à forte dose, la caféine peut entraîner des troubles digestifs, des palpitations et des maux de tête. Elle peut aussi avoir des effets diurétiques, ce qui augmente les risques de déshydratation. Il vaut mieux vous limiter à 180 mg par heure, soit l'équivalent d'une tasse de café filtre torréfié. Alors moi, je termine en vous disant quels sont les meilleurs produits sur les 88 qui ne sont pas considérés comme meilleurs, mais qui sont des bons choix. Hein? Bon, alors, il y a le Power Gel de glucides et d'électrolytes chocolat. Hein? Ça s'appelle comme ça. Ça coûte 1,37 $. Le GU Roctane Ultra Endurance Énergie Gel Limonade. Lemonade. 3,59 $, c'est le plus cher, lui. Louis Garneau LG1 Gel Énergétique Extra Électrolyte Sorbet à l'Orange. 1,46 $. Le Power Gel de glucides et d'électrolytes double latte. Oh, 1,46 $, c'est bon. Power Gel de glucides et d'électrolytes fraise banane. Hein, si vous êtes plutôt banane. Alors, c'est 1,40 $. Alors, je pense que vous en avez assez pour aujourd'hui. Hein? Avant d'aller faire vos exercices, mieux vaut manger puis pas en faire trop. Merci. Bonjour.
Alors, quelques brèves maintenant. Napoléon en Lego. Pour commémorer la défaite de Napoléon à Waterloo, la ville de Belgique présente une exposition sur les grands moments de la vie de l'empereur en Lego. Plus de 1,2 million de briques multicolores ont été nécessaires pour réaliser les œuvres, dont la célèbre toile Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard de Jacques-Louis David.
Oui, alors moi j'en ai une ici, un cocktail explosif. Alors c'est pour aller dans le même sens qu'on parlait tantôt là. Les jeunes, alcool et boissons énergisantes. En 2012, une adolescente californienne de 14 ans est décédée d'une intoxication à la caféine. Elle avait consommé deux boissons énergisantes de 240 ml dans les 24 heures précédant sa mort. Et à chaque année, des jeunes victimes viennent s'ajouter à la liste, ce qui n'empêche pas la popularité de ces boissons de grandir. Et parmi les effets secondaires observés chez les consommateurs, on note des palpitations cardiaques, une augmentation de la pression artérielle, ainsi que des tremblements. Et c'est qu'elles contiennent une grande quantité de sucre mélangé à des excitants, souvent de la caféine, eux aussi en grande quantité. Et chez les jeunes, ces boissons déjà potentiellement dangereuses sont souvent mélangées à de l'alcool. Mm-hmm. Alors, imaginez.
OK, on Allez-y. Parle de taxer ces boissons énergétiques.
Hein, parce en plus, que, oui, bien sûr.
Alors, autre brève, à vélo, même sous la pluie. Une entreprise néerlandaise a conçu un parapluie destiné aux cyclistes. De forme asymétrique, il protège davantage contre la pluie qu'un modèle traditionnel. Il suffit d'en glisser le manche dans le support tubulaire fixé au guidon, selon un angle qui réduit la résistance au vent, Aux Pays-Bas, il pleut en moyenne 185 jours par année.
Ouais.
Oui.
Ah ben, j'ai des conseils du pro, moi, à propos de ces... Oui. Alors, une boisson énergisante, si vous êtes tenté de mélanger l'alcool à une boisson énergisante, vous, pour pouvoir tenir le coup jusqu'aux petites heures du matin, sachez que, en plus des effets secondaires cités plus haut, une étude a démontré que ce comportement double les risques d'avoir un accident, de se blesser ou d'être victime d'une agression sexuelle. Oh là là! Et de l'eau pour rester en forme plus longtemps et s'éviter une gueule de bois le lendemain. Rien de mieux que de rester hydraté tout au long de la soirée. C'est bon, ça? Et pour contrer l'effet déshydratant de l'alcool, buvez beaucoup d'eau, idéalement au moins un verre entre chaque consommation.
Ben, c'est parfait.
Et par ce temps chaud, qu'est-ce qu'on dit?
On dit buvez de l'eau.
Et à la semaine prochaine! Merci! Au revoir.